Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales. Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Acclamer sa grandeur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais ce matin t'encourager pendant que nous allons chanter. Que ce ne soit pas un chant, mais que ce soit une prière. Une prière de ton cœur qui monte devant le trône de Dieu, quels que soient les défis, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la bataille, quelle que soit la grandeur de l'Éternel que tu as expérimenté jusqu'à présent. Je voudrais vraiment que quand nous chantons ensemble, que ta vie soit remise au devant du trône de Dieu, que ta famille soit remise au devant du trône de Dieu, que tes affaires, tes projets, tout soit abandonné au devant de son trône, et que vraiment ce soit l'expression d'un cœur plein de foi qui chante et qui dise à Dieu, parce que tu vis, moi je n'ai rien à craindre. Parce que la peur ne fait pas partie de nous. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ni un esprit de crainte, mais un esprit de foi, de zèle, d'amour. Donc nous sommes remplis de foi. Nous croyons en l'Éternel, le Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce qu'il est vivant. Alors nous allons le dire, que le diable nous entende, que l'enfer entende, que la situation face à laquelle on se trouve entende, que parce qu'il vit, on n'a rien à craindre. Personne ne peut nous intimider. Cette maladie n'a pas le droit d'être intimidée. Cette situation ne t'intimidera pas parce que ton Dieu est vivant. Parce que Dieu vit, alors je n'ai rien à craindre.
Parce qu'il vit,
oh, yes,
je n'ai rien à craindre. Mais lendemain, sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie en ce temps.
Parce qu'il vit. Ta main droite sur ton cœur. Dis Seigneur, je crois que tu es. Et je voudrais vraiment te dire, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Ces paroles ne sont pas vaines, mais ce sont des déclarations de foi d'un enfant, d'un fils, d'une fille qui parle à son père et qui sait que son père est vivant. Parce que tu vis, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tes projets à mon égard ne seront pas, parce que j'ai pris la résolution de m'accorder à ta volonté suprême. Parce que tu vis, Seigneur, moi, je n'ai rien à craindre. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour la parole de ce matin. Seigneur, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Accorde à chacun d'entre nous la révélation de ta parole. Éclaire-nous par la lumière précieuse des Écritures, afin que nos vies soient totalement conduites et influencées par le haut conseil de ta pensée suprême. Merci Seigneur, parce qu'aucune autre pensée, aucun autre raisonnement ne pourra avoir, Éternel, la prédominance en nous. Nous nous opposons, Éternel, contre les manœuvres de l'ennemi. Et nous amenons captives toutes les pensées contraires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit dans chaque cœur, que la lumière soit dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Une lumière qui révèle Dieu. Une lumière qui révèle la pensée de Dieu. Une lumière qui révèle la puissance de Dieu. Une lumière qui révèle la délivrance de l'Éternel. Une lumière qui révèle la bonté de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un qui m'écoute dise Amen trois fois. Alléluia. Ce matin, je me sens conduit d'avoir une causerie avec vous. Je ne sais pas si on va l'appeler enseignement, prédication, mais je veux causer avec vous ce matin. Et je veux relâcher dans le cœur de chaque personne, par l'assistance du Saint-Esprit, des pensées précieuses qui m'ont été communiquées par lui, par Dieu, notre Créateur. Allons-y ensemble. Sans nous préoccuper du thème du message. Parce qu'à la fin, chacun d'entre nous comprendra exactement quel est le thème. Allons ensemble dans le livre de Somme 24, verset 1. Somme 24, verset 1. Est-ce que vous y êtes? Je peux lire maintenant? Parfait. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Je reprends. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Maintenant, la terre renferme quoi quand on dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme? Qu'est-ce que la terre renferme? Qu'est-ce que nous trouvons sur la terre? Qu'est-ce que la terre renferme? Elle renferme quoi? La terre renferme les animaux, elle renferme le pétrole, elle renferme le bauxite, elle renferme l'or, elle renferme les diamants, elle renferme le cacao, elle renferme le café et toutes les richesses que vous puissiez imaginer. La Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Et ensuite, la Bible continue en disant, le monde et ceux qui l'habitent. Quels sont les habitants du monde? Les hommes. Nous avons dans le monde les noirs, nous avons les blancs, nous avons les métis, les jaunes, les rouges, hein, les marrons, enfin toutes les couleurs qu'on puisse imaginer. Mais la Bible dit, à l'Éternel, la terre et ceux qui l'habitent. Et nous n'avons pas simplement cela. Dans le monde, nous avons aussi les sorciers, nous avons les francs-maçons, nous avons les rose-chrétiens, nous avons les chrétiens, nous avons les musulmans, nous avons les animistes, mais la Bible dit à l'Éternel le monde et ceux qui l'habitent. Donc, en quelque sorte, nous ne contestons pas. Il faut être idiot pour contester que l'univers entier appartient à l'Éternel, notre Dieu. On est d'accord là-dessus. Donc, la Bible le dit, et si la Bible le dit, c'est vrai. La parole de Dieu ne ment pas. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Maintenant, suivez mon raisonnement, puisqu'on parle ce matin, d'accord? Si le monde appartient à l'Éternel, si la terre et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu, et que toi et moi, nous sommes fils ou filles de Dieu, nous devons avoir un privilège qui ne ressemble pas à ceux qui n'ont pas une relation directe avec le Créateur. Je vais continuer. Vous savez, au départ, quand Dieu a créé ce monde, ni toi ni moi, nous y étions. Mais la Bible nous le révèle, nous le croyons. C'est pour ça que nous refusons, nous contestons les théories de l'évolution. Parce que nous savons que l'homme est sorti de Dieu. Et pas évolué d'un animal quelconque. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ma Bible dit qu'avant que l'homme ne soit manifeste, vous savez, il y a des choses qui ont existé avant l'homme. Quand Dieu a créé le monde, la Bible dit au commencement, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Ok, il sépara la lumière avec les ténèbres. Ok, et ce fut le premier jour. Et ensuite, Dieu continue de créer. Et il sépare les eaux qui sont de dessus, les eaux qui sont de dessous. Et n'est-ce pas, il continue de créer. Il appelle le deuxième jour, le troisième jour, il continue de créer. Et ensuite, nous nous rendons compte que dans la création, Dieu commence à manifester de l'eau. Il manifeste, n'est-ce pas, des animaux vivants, des requins, des baleines et tout ce qu'on peut imaginer. Et de la terre, il fait germer les plantes. Et dans cette propre terre, des richesses inouïes et inimaginables, des trésors que l'homme même n'est pas capable d'imaginer. Mais le sixième jour, quelque chose va se passer. Dieu, n'est-ce pas, ayant déjà créé toutes ces choses, va se dire, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur tout ce qui rampe sur la terre. Donc Dieu a créé la terre, il a agencé la terre de toutes sortes de bénédictions inimaginables qu'il a placées sur la terre. Et le premier homme, il le crée à son image et à sa ressemblance. Il crée Adam et Ève à son image. Maintenant, la Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que Dieu bénit cet homme. Il dit, sois fécond, multiplie, assujetti, domine, ok, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui rampe sur la terre. L'Éternel prend plaisir, n'est-ce pas, à manifester sur la terre cet homme. Maintenant, suivez-moi bien. Si on s'arrête là, on risque de rater quelque chose de plus important. Le psaume 115, verset 15 à 16, va nous révéler quelque chose de grand. La Bible dit, dans ce psaume-là, verset 115, ok, verset, psaume verset 115, verset 15 à 16. Psaume 115, verset 15 à 16, s'il vous plaît. Psaume 115, verset 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce que le verset 15 dit. Au verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et maintenant, suivez ce qui suit. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Il a donné la terre au fils de l'homme. Au fils de l'homme. Il faut souligner dans ta vie parce que ça va faire un sens tout à l'heure. Il a donné la terre au fils de l'homme. Il n'a pas donné la terre au serviteur de l'homme, mais au fils de l'homme. Et dans cette terre, Il a donné au Fils de l'homme. Et nous avons dit que la terre n'est pas simplement la matière terre que nous voyons, elle est tout ce qu'elle renferme, a été donné au Fils de l'homme. Donc quand Dieu décide, n'est-ce pas, de créer la terre, il a une pensée. Il s'est dit, les cieux, j'y suis, j'y règne. Mais la terre est la propriété que je fais pour confier à l'homme, afin que sur cette terre, l'homme exprime ma gloire et démontre ma grandeur. Et dans ce premier homme que Dieu fait, il le fait véritablement à son image. Et hier dans ma couche, j'ai été entraîné dans mes méditations à m'interroger sur l'essence même de ce premier homme. Comment est-ce qu'il était? Qu'est-ce que ce premier homme revêtait? Ce premier homme a été créé à l'image de Dieu, nous le savons tous. Alors je suis allé plus loin, demander à Dieu, mais d'où venait le sang que le premier homme portait? Il venait de qui? Il venait de Dieu. Le premier homme, Adam, avait le sang de Dieu en lui. Son sang ne venait d'aucune personne d'autre que de Dieu. Et la Bible dit, l'âme ou la vie d'une chair est dans son sang. Et comme le premier homme portait le sang de Dieu, ce premier homme avait la vie de Dieu. Et vous savez, la vie que Dieu a donnée à ce premier homme ne s'est pas limitée à cette vie qui lui menait à respirer, à chanter, à le louer, à le bénir. Mais il lui a donné une vie qui le permettait de s'épanouir sur la terre et de pouvoir jouir de toutes les propriétés que la terre possédait. Une domination incroyable, une autorité sans pareil. Le premier homme était si puissant qu'après la mort, il a fallu plus de 900 ans pour que la mort ait raison de son corps. Quelle puissance en cet homme. Après le péché, il a fallu trop de temps pour que son corps soit détruit. Parce que son sang venait directement de Dieu. Mais ma Bible dit que nous sommes tous descendants de cet homme. Alors, le problème est à ce niveau. Nous sommes tous descendants de cet homme. Adam. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit rouge. Américain, français, asiatique, africain. Nous sommes tous descendants de cet homme. Mais quand nous regardons à notre vie aujourd'hui, une espérance de vie, quelqu'un qui vit 80 ans, c'est une fête incroyable dans la famille. Mais le premier, malgré la chute, a dépassé 900 ans. Il y a eu une grande dégradation depuis le premier homme jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien que Jésus revienne. Sinon, on risque d'atteindre les espérances de vie de 30 ans. Si on continue comme ça avec toutes les pollutions dont on subit, les aliments qui sont les plus... tout est devenu artificiel. Jusqu'à l'être humain lui-même. Tu n'es pas sûr que le sourire que tu as en face de toi est vrai. Ah ouais, parce que même la bouche est artificielle. Tout est artificiel. Même les habits sont devenus synthétiques. Tout est artificiel. Oh, on ne parle pas de ça ce matin. Bon, mais il y a tellement de choses qui ont détérioré, n'est-ce pas, la valeur de cet homme-là que nous sommes. Et vous voyez, la Bible dit que quand Dieu a créé la terre, il a donné toute la propriété à l'homme, dont le premier homme était extrêmement riche. La richesse n'était pas un problème pour lui, il était abondamment béni. Il avait une vie spirituelle épanouie, une relation merveilleuse avec son Créateur. Mais il a péché. Il a désobéi à Dieu, parce que c'est ça le péché. Il a désobéi aux instructions de Dieu. Et quand il a désobéi aux instructions de Dieu, la terre qu'il possédait a été cédée de façon illégale aux mains de Satan. Satan est devenu le propriétaire de la terre. Et c'est ainsi que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Maintenant, nous voyons bien dans la Bible l'évolution de cette rébellion de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Et nous allons nous rendre compte que plus tard, Dieu sera tellement outré qu'il aura même l'intention de détruire la terre parce qu'il voit le mal. On voit après la chute d'Adam et Ève qui donnent naissance à Abel, Caïn. Et plus tard, le mal est tellement fort que Caïn s'élève contre son frère Abel et décide, n'est-ce pas, de le tuer. Tuer son propre frère. Alors que cette créature a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est quelque chose d'étrange, ça a dû se produire. L'homme a perdu, n'est-ce pas, le contrôle de Dieu sur sa vie. Et donc nous allons plus tard, comment est-ce qu'avec la descendance d'Adam jusqu'à Noé, Noé va bâtir une alliance avec l'Éternel. Et Dieu va dire, pour raccourcir à Noé, quand Noé va sortir de l'arche, il va montrer l'arc-en-ciel à Noé en lui disant, je ne vais plus jamais détruire la terre, je ne détruirai plus jamais la terre, je ne le ferai plus à cause de toi Noé. Et donc plus tard, il y a un autre homme, et lui il m'intéresse, c'est de lui que je voudrais qu'on parle ce matin, un peu plus, il s'appelle Abraham. Abraham, dans la dispensation de la promesse, va avoir la visitation de l'Éternel. Mais c'est étrange comment est-ce que Dieu apparaît à Abraham. Abraham n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Abraham ne connaît pas de pasteur. Abraham ne parle pas en langue. Abraham n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Abraham ne connaît pas le jeûne. Abraham n'a même pas un père qui a tenu sa main un jour pour lui dire Dieu existe. Parce que Abraham est descendant de Terah qui est adorateur d'idoles. Donc ce que Abraham sait, c'est que les dieux qui existent, ce sont les dieux des idoles. C'est, on va adorer le canari, on va adorer les plantes, on va adorer les eaux, on va adorer la lune, on va adorer le soleil. Mais on ne connaît plus Dieu. Dieu est lointain dans la famille d'Abraham. Mais cet Abraham-là va avoir la visitation de l'Éternel. Et Dieu dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 1, 2, 3, j'y viens. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Et en quelque sorte, Dieu, par Abraham, cherche le moyen légal de reposséder la terre et de permettre aux hommes de la terre d'avoir la possession que Dieu avait promis pour l'homme en Adam. On y est? Maintenant, suivez-moi très, très, très bien. Ésaïe 51, allons-y, verset 1, 2, 3. Allons-y rapidement. D'accord? Vous y êtes? Allons-y, verset 1, 2, 3. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse où vous avez été porté. Maintenant, verset 2. Suivez attentivement verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père. Répète après moi. Encore. Portez les regards sur Abraham, votre père. Et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Encore. Lui seul, je l'ai appelé. Le verset qui suit, la ligne qui suit. Je l'ai béni et multiplié. C'est étrange. Et il dit, lui seul, je l'ai appelé. Alors, d'où vient le fait que nous disons, Dieu m'a appelé? Si la Bible dit, lui seul, je l'ai appelé. Lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et je l'ai multiplié. C'est ce que la Bible dit. Donc, il dit, j'ai appelé Abraham. Et donc, quand nous lisons l'histoire de Dieu qui appelle Abraham, nous allons nous rendre compte que Dieu fait une promesse à Abraham. Il a fait la promesse. Et maintenant, la condition pour que Abraham soit visité était claire. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu avait dit à Abraham, si Abraham n'avait pas quitté son pays, s'il n'avait pas quitté sa patrie, s'il n'avait pas quitté la maison de son père, s'il n'était pas allé vers le pays que Dieu lui montrait, le nom d'Abraham ne serait jamais grand. Puisqu'il dit, je rendrai ton nom grand. En quelque sorte, la grandeur de ton nom sera rattachée à l'obéissance de l'instruction que je t'ai donnée. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Et vas-y dans le pays que je te montrerai. Et il dit au futur, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais regardez en Adam, quand il a béni Adam, Dieu le bénit et Dieu lui dit, sois fécond. Il a parlé au présent. Mais quand il a béni Abraham, il a parlé au futur. Quand il a béni Adam, il a parlé au présent. Pourquoi est-ce qu'il parle au futur quand il annonce cette parole à Abraham? En quelque sorte, en Genèse 12, ce n'était pas encore une bénédiction. C'était une promesse de manifestation de la bénédiction de Dieu qui était conditionnée par l'obéissance d'Abraham. Je te bénirai. Maintenant, pourquoi Dieu ne pouvait pas parler au présent? Parce que la terre n'appartenait plus à Dieu. Et Dieu ne pouvait pas promettre à Abraham de lui donner la terre. Dieu ne pouvait pas promettre à Abraham de bénir Abraham sur cette terre véritablement, tant que certaines choses n'avaient pas été faites pour pouvoir légaliser la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Parce que Dieu lui-même est soumis à l'autorité de sa parole. Alors, Abraham s'en va. Il obéit à la voix de Dieu. Je raccourcis. 11 ans plus tard, Abraham donne naissance à un fils qu'on appelle Ismaël. Ismaël est né d'Abraham, mais il n'était pas né de Sarah. Il était né d'Agar. Et quand nous voyons Ésaïe 51, il dit clairement au verset 2, « Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. » Et sur Sarah. Donc, le problème ici était de s'assurer que cette descendance d'Abraham, dont nous verrons plus tard, ne descend pas simplement d'Abraham, mais descend d'Abraham et de Sarah. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ça remet en cause tout ce que nous croyons. Nous disons, oui, Dieu a béni Ismaël. C'est pour ça que le Moyen-Orient est béni. C'est pourquoi que tous ces gens ont le pétrole. C'est pour ça qu'ils ont toutes ces richesses. Mais je vais vous montrer comment est-ce que bientôt nous allons assister à des événements surnaturels, puissants, des miracles incroyables. Parce que ces richesses n'appartiennent pas aux esclaves, n'appartiennent pas aux fils illégitimes, mais appartiennent aux enfants légitimes. Oh my God! Oh, oh, oh. Come on! Et il dit, Abraham, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. En quelque sorte, j'ai refait avec Abraham le schéma que j'ai raté avec Adam. Parce que quand j'ai béni Adam, j'ai voulu qu'il se multiplie dans la bénédiction et Adam a raté. J'ai recommencé mon plan avec Abraham. Et j'ai béni Abraham et je l'ai multiplié. Afin que toutes les nations, le juif, le grec, le bamileke, l'agni, le bété, le dioula, le corogolais, quel que soit l'endroit, le français comme l'américain, soit béni après Abraham. Et donc, suivez-moi bien, et il y a quelque chose qui se passe. Dieu va plus tard dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Tu as eu ce fils Ismaël, pas grave, mais il y en a autre que tu devras avoir. Parce que j'ai dit, ta descendance, toi Abraham, sera béni. Mais il faut que cette descendance vienne de Sarah, mais pas d'Agar. Mais de Sarah. Est-ce que ça va? Vous savez, le plus important n'est pas de dire que Dieu m'a béni. Mais il faut encore que le Saint-Esprit soit aussi à la base de la conception du miracle ou de la bénédiction que tu prétends avoir reçu de Dieu. Parce que les gens disent, oui, Dieu m'a béni. Je le féticheur, Dieu m'a béni. Ils sont allés, ils ont volé, Dieu m'a béni. Et on dit, amen, toutes choses viennent de Dieu. C'est vrai, mais il y a des bénédictions qui doit venir en même temps du Père et de la... Oh my God! Est-ce que vous me comprenez? En même temps, le Saint-Esprit devra attester par la parole de l'Éternel que ce que tu as est légitime. Je continue. J'ai dit, on va causer ce matin. Alors, il se trouve que là, Dieu fait cette promesse à Abraham. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Abraham va, à un certain moment de sa marche, il va dire à Dieu, avant même d'avoir eu Ismaël, il dit, Éliezer de Damas, qui est dans ma maison, sera mon héritier. Éliezer de Damas était un esclave, un serviteur dans la maison d'Abraham, et Abraham n'avait pas de descendants. Et il dit à Dieu, cesse de me baratiner. Cesse de me blaguer, parce que tout ce que tu me racontes, c'est vrai, mais je ne vois rien. Parce que Éliezer de Damas, mon esclave, dans la maison sera mon héritier. Et j'aime ce que Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham, ferme-moi cette bouche et sache que celui qui héritera de toi ne sera pas un esclave, mais il sortira de tes entrailles. Je ne prendrai pas ma terre pour donner à son serviteur. Je ne prendrai pas ma terre pour donner au fils illégitime. Abraham, cette bénédiction, ce sont ceux qui sortent de tes entrailles qui vont hériter la promesse. Vous vous rendez compte que quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, il y a certains descendants d'Abraham qui possèdent des richesses, mais qui ne sont pas la descendance d'Abraham, la postérité d'Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Ils peuvent venir d'Ismaël. Mais quand Dieu a parlé à Abraham à Genèse 22, apporte-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il n'avait pas été compté dans le schéma de Dieu. Ismaël a été volontairement oublié par Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, celui qui devait hériter d'Abraham était sa descendance, la lignée même d'Abraham qui devait descendre, n'est-ce pas, du sein de Sarah. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez un peu. Il y a une parabole que Jésus raconte. Et cette parabole concerne un père qui a deux fils. Abraham avait eu combien de fils? Majeurs. Le premier s'appelait et le deuxième s'appelait. Très bien. Maintenant, la Bible dit, il y a un homme qui a deux fils. Et le plus jeune vint et dit à son père, donne-moi ma part de bien. Parce que moi, je suis fatigué d'être ici. Et puis, je suis avec toi. On est là le matin, on se lève à 6 heures. On se lève à 15 heures. On doit manger aux heures prescrites. Moi, je suis fatigué de tes ordres. Donne-moi ma part de bien. Je vais aller vivre comme je veux. C'était le plus jeune. Et la Bible dit, le plus jeune se leva et il alla vers son père. Et le père lui donna sa part de bien. Ce qu'il y a d'intéressant avec le plus jeune, c'est que ce jeune fils avait la révélation du fait que son père était son père. Et que lui, il était le fils de son père. C'était ça la grande différence. Et le fils aîné était là, avant lui. Le jeune est venu, il dit, et puis on lui a donné tout ce qu'il... Il dit, ok, bye bye papa, je m'en vais. Il est parti avec ses biens, dépenser les biens avec les prostituées. Souvent, quand on parle de ça, on s'attarde en disant, non, ce fils, il était mauvais. Mais il avait trop de qualités, cet enfant. Trop de qualités. Dans mon numéro 1, il avait l'audace d'aller auprès de son père pour lui dire, voici ce dont j'ai besoin. Vous savez que les chrétiens hypocrites n'obtiennent jamais rien de la part de leur Dieu. Il y a des gens qui ont peur même de demander à Dieu ce qu'ils veulent. Si tu as besoin d'un jet privé, demande le jet privé. Donne-moi la part de jet, je vais voler avec. Est-ce que vous me comprenez? Tu as besoin d'une Porsche, donne-moi ma Porsche, je vais. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut que tu saches, aussi longtemps que tu es la descendance d'Abraham, cette possession de l'univers t'appartient, car c'est l'héritage qui a été donné à ton père. Et tu as une part dedans. Donc tu peux demander à Dieu de te donner ce qui est à toi. Le jeune homme a pris ce qui était à lui et il est parti. La Bible dit qu'il a mangé avec les prostituées. Et à un certain moment, la famine survint là où il était. Et il s'est dit, bon, je vais aller être embauché quelque part, dans tous les cas. Et étant embauché, je vais quand même avoir de quoi manger. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce jeune homme connaissait la notion du travail. Il dit, je vais quand même aller travailler. Parce que bon, j'ai dilapidé tout, je vais travailler quand même. Il arrive, même ce qui est au port, il n'arrive pas à manger. Il dit, bon, c'est pas grave. Mon père a de grandes propriétés. Je vais rentrer chez lui. Et je vais demander qu'il m'embauche. Si mon père m'embauche, c'est certain que dans sa maison, au moins, en tant que serviteur, ayant perdu mon attribut de fils, parce qu'il m'a déjà donné ce qui est à moi, je reviendrai à lui comme serviteur. Et je vais travailler. Et il me payera. Au moins, je serai mieux payé que là où je suis. Et il fait volte-face, il revient. Mais ce qui est étrange, c'est que quand le père, quand il revient, il trouve le père en train de regarder sur le chemin que lui, il avait emprunté quand il partait. Ça veut dire que depuis le moment où ce jeune homme a quitté la maison, celui qui a été perturbé, ce n'était pas lui, mais c'était le père qui avait été quitté par le fils. Le fils qui était resté dans la maison devrait avoir une attitude qui faisait ressentir, qui faisait montrer au père qu'il y a un enfant qui l'a quitté. Parce que le père n'avait pas de problème avec les serviteurs. Il en avait tellement. Mais il avait un problème avec les enfants. Il voulait des fils. Et le premier était tellement habitué à servir qu'il a quitté son statut de fils. Il est devenu serviteur. Et donc le père pleurait le départ du fils cadet. Et il attendait. Et donc quand le fils arrive loin, le père regarde et il voit. Et là, ma Bible dit qu'il court vers lui et il l'embrasse. Il donne des ordres à son sujet. Il dit, couvrez-le de bien, tuez-le vos gras, organisez une fête. Et la fête est organisée. Il dit, car mon fils que voici était perdu et je l'ai retrouvé. Il dit, mon fils. Et donc, le fils, il y a une fête. Le fils aîné revient. Il est vraiment choqué. Quand il arrive, il trouve une fête. Et il s'arrête, il demande à un autre serviteur. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père? Est-ce que vous me comprenez? Et le serviteur lui dit, ah, ton frère qui était parti est revenu et à cause de lui, il y a la fête. J'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que si vraiment nous sommes fils aînés, nous sommes supposés avoir une communion directe avec notre Créateur. Ce fils n'avait pas de relation avec, intime avec son père comme ça devrait être. Il demande les nouvelles de la maison de son père en serviteur. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Un fils est un fils. Ce qui se passe à la maison du père n'est pas révélé par les esclaves de la maison. Mais c'est révélé par les fils de la maison. Parce que les fils héritent. Parce que les fils ont le sang du père. Et Adam avait le sang de Dieu. Les fils ont le sang du père. Et donc, le père sort, le frère vient tout fâcheux. C'est pas possible, moi je suis là depuis, ça fait longtemps que je te sers. Sers, ça veut dire qu'il était tellement serviteur. Et il dit, tu n'as rien fait pour moi. Le père est triste. Il dit, mon fils, en fait, ce que tu vois là, c'est à toi. Parce que lui-même, il a déjà pris sa part. Même le veau qu'on a tué, c'est dans ta part qu'on a pris. Tu es tellement conscient de me servir. Et tu n'as pas le temps dans l'intimité avec moi que tu n'arrives même pas à savoir ce qui est à toi. Mais il est revenu et il a pioché encore dans ta propre part. Et je lui ai donné. Pourquoi? Parce que lui, il a conscience. Il a eu conscience de sa position de fils. Et il est revenu vers moi. Sachant que dans la maison de son père, quelque chose pourrait être fait. Et vous voyez, dans la causerie que j'ai avec vous ce matin, c'est de vous poser la question de savoir, êtes-vous conscient d'être fils ou conscient d'être serviteur? La religion nous amène au service de Dieu. Je sers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on se lève, j'ai besoin de quelque chose, je prends un jeûne d'autre jour. Oh Seigneur, je jeûne, fais un miracle pour moi, donne-moi une percée, je veux me marier. Je vais vous dire une chose, c'est un scandale grave. C'est un scandale grave qu'une femme jeûne pour se marier. Je vous dis la vérité, c'est un scandale. Je vais vous dire quelque chose, je vais plus loin, c'est un scandale. Écoutez-moi bien. Si vous jeûnez pour avoir un mari, pour que Dieu vous rende visite, pour vous donner de l'argent, le Dieu que vous servez n'est pas le même que je connais. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Écoutez-moi bien. La Bible dit que c'est par la foi que l'héritage de la promesse a été accordé à Abraham et non par les œuvres de la loi. Comme si c'était par la loi qu'on obtient un héritage. Et là, oui, Seigneur, je jeûne, il faut que tu me visites. Rob, tu passes 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures enfermé, prier, il faut que Dieu me bénisse, il faut que Dieu me donne ma part. Non, il faut demander ta part avec foi. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de jeûne pour avoir une visitation de Dieu. Jeûne pour le connaître. Jeûne pour avoir une relation, ton cœur pur avec lui. Jeûne pour l'aimer véritablement. Jeûne pour être entier à ton père. On ne jeûne pas parce que Dieu va nous donner une voiture. Est-ce que vous me comprenez? On ne jeûne pas pour ça. Oh, je jeûne parce que je veux que je sois le plus grand prédicateur. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que vous venez à Dieu comme si vous allez chez les anciens féticheurs pour obtenir juste une petite chose du trône de l'Éternel. Mais il y a d'autres personnes qui savent qu'ils sont des fils. Et la Bible dit que je t'ai pris, oh my God, de la poussière et je t'ai fait asseoir à la table des rois. Est-ce que vous me comprenez? Alors, mon problème est le suivant. Quand vous venez dans une maison organisée et qu'il est l'heure du repas, les fils ne mangent pas à la cuisine. Certains d'entre nous, on n'a pas connu cette table. Parce que, alors vous savez, c'est comme ça. Mais il dit, je prends la poussière pour ce qui sort de la poussière, l'indigent, pour le faire asseoir à la table des rois. Il faut souvent qu'on passe par là pour connaître la gloire plus tard. Oh my God. Et que, laissez-moi continuer. Donc, et vous savez, on a souvent été dans les quartiers précaires. On rend visite à certains de nos amis. On arrive, on voit l'enfant à table. On apprend à tenir la fourchette et le couteau. Nous, on n'a pas su. La nourriture là dans le même plat versé, mélangé. Une cuillère. On ne sait pas comment on tient le couteau, comment on tient la fourchette, le verre de l'eau, le verre de la boisson. On ne connaît pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a la nourriture et on mange. Mais gloire à Dieu, parce que les choses vont changer. Oh my God. Oh my God. Donc, et vous voyez, quand l'enfant, il est là, l'enfant est à table. Et vous savez, souvent, c'est tellement organisé qu'autour de la table, chaque enfant connaît quelle est sa place. Le père est à l'extrême droite, la mère est à l'extrême gauche et les enfants sont tout autour, en train de causer autour de la table. Et généralement, quand quelqu'un veut aller, il dit je vais faire l'université, je vais faire la médecine, l'autre dit je vais être footballeur, c'est autour de la table que les gens discutent. Et toi, Romuald, tu dis que tu veux devenir footballeur, qu'est-ce que tu en penses? Chaque fils donne son avis, chaque personne parle. Mais entre-temps, il y a tous les mains à table. Et souvent, il y a des enfants qui regardent le morceau que le père a pris. Il dit, papa, s'il te plaît, je veux ton aile. Non, mais hey, pourquoi est-ce que tu peux oser demander ça à ton père? Le père dit, il n'y a pas de problème. Il bascule le plat directement devant l'enfant. L'enfant mange. Parce que c'est son père. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de protocole. Mais quand quelqu'un d'autre arrive et qu'il est de la maison, il est gêné à la table. D'ailleurs, les serviteurs ne mangent pas à la table. Ils ne mangent pas à la table. Ils sont de la maison, mais ils ne sont pas à la table. Et dans la Bible, souvent on dit qu'il a pris l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Et nous pensons que c'est le roi Gbagbo ou le roi, je ne sais pas, Bongo. Non, ça n'a rien à voir. Si c'est pour me faire asseoir au palais, c'est petit. Est-ce que je vous dis, c'est petit. Ce n'est pas là-bas que Dieu veut que je sois assis. La Bible dit, vous êtes assis avec Christ dans les lieux. Ça veut dire qu'au ciel, une table a été dressée. Est-ce que vous me comprenez? Une table a été dressée. Et le jour où je suis né de nouveau, il y a une chaise qui est ajoutée à la table. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Viens, viens, viens. Il y a une chaise qui a été ajoutée. Et donc, tout de suite, il est invité directement. Il s'assoit à sa place. Et voilà le repas. Il peut croiser les pieds. C'est sa maison. Est-ce que vous me comprenez? Donc, écoutez-moi très bien. Et c'est là le vrai problème. Parce que s'il est à cette table, le jour où il y a un repas et qu'ils sont assis, Dieu est à gauche, à droite, le Saint-Esprit est à gauche. Et le repas est là, la parole est là, et on est tout autour. Et le problème c'est quoi? Souvent quand je vous parle d'Abraham, vous demandez, mais ce gars il a vu où? Mais je mange avec lui à table, dans le royaume. Donc à des moments, Noé m'explique, qu'il me dit, tu sais, le jour où le déluge est arrivé, voilà un peu ce qui s'est passé. Et je cause avec Noé, parce qu'on est de la même famille. Est-ce que vous me comprenez? Et je suis assis avec lui dans les lieux célestes, donc je partage le repas. Donc en étant dans le Nouveau Testament, j'ai la connaissance de l'Ancien Testament, parce que Dieu est Alpha et il est Oméga, il est la connaissance. Oh my God! Oh yes Lord! Come on! Amen! Donc les choses de Dieu, ce sont des choses qu'on connaît. Est-ce que vous me comprenez? Et quand je vous dis que j'ai la démarche de Joseph, vous pensez que je blague? Mais Joseph marche comme moi. On a la même démarche. Quand il était premier ministre en Égypte, il était comme moi. Sûr de lui. Il était quelqu'un de ferme et qui connaissait son Dieu. Écoutez-moi bien, on est de la même famille. On a les mêmes gènes. Le même sang coule dans nos veines. On mange le même repas et on discute ensemble. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que j'abandonnerai ma place à la table pour aller discuter les miettes avec les chiens? Il aurait dit, non, vous savez, les chiens, ce sont les enfants de Dieu qui vivent dans le péché, qui sont si, ouais, peut-être une symbolique, mais je vais vous dire une chose. On n'a pas enlevé ta place à la table parce que tu as menti à ton père. Au contraire, on t'invite à la table et on te sermonne devant tout le monde. Et c'est à la table. On remet en cause tes projets à la table. Donc si tu n'es pas à table et que tu passes ton temps à lutter dans les jeûnes pour juste venir sur la table, renifler l'odeur de ce qui se mange en haut, il y a un problème. Est-ce que vous... Il y a un problème. En fait, c'est la vraie attitude. Et vous voyez des chrétiens qui sont là, ils ont les rides à 30 ans. Et vous les voyez là, ils marchent. Et donc, le jour où ils te voient, ils arrivent, ils te regardent comme ça. Et je me rappelle un jour, une dame m'a regardé comme ça avec un groupe de personnes. Vous pouvez voir, ça dit la loi. C'est pas possible, non, je l'aime comme ça. Ça ne peut pas être Dieu qui l'a béni de cette manière. Certainement, il fait des pratiques bizarres. Mais le vrai problème, c'est que ce sont les bizarroïdes qui n'obtiennent pas les promesses, mais les légitimes par la foi. Oh my God. Sont assis à la table. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'a rien à voir avec le nombre de temps que tu as passé en Dieu. D'ailleurs, certains d'entre vous savent, parce que vous êtes nés dans de bonnes familles terrestres, que même à l'âge de 1 an, votre père avait déjà ouvert un compte bancaire pour vous, avec votre nom, alimenté sous d'autres cieux, même alimenté en votre nom. Et quand vous avez atteint 18 ans, vous avez déjà une fortune. Vous n'avez rien fait pour. Vous étiez simplement un héritier. Alors, ça change les choses dans ma façon de voir. Parce que la Bible dit que Abraham, Dieu l'a béni et Dieu l'a multiplié. Donc, si Dieu a béni Abraham et Dieu l'a multiplié, ça veut dire que je ne devrais pas chercher à être béni par Dieu. Parce que, en fait, il y a un homme qui a été béni. Et s'il a été béni abondamment, et que je suis son fils, je suis automatiquement relié à la bénédiction d'Abraham. D'ailleurs, je vais vous dire ceci. Quand vous lisez bien le livre de Galates, vous allez comprendre dans Galates 3 que même quand Jésus est arrivé à la croix, il est arrivé comme une réponse de Dieu. Pas d'abord pour l'humanité, mais d'abord pour Abraham. Je continue. Et c'est là où la profondeur de ce message arrive. Dis à ton voisin, attache ta ceinture maintenant. Parce qu'il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Alors maintenant, la promesse a été faite à Abraham. Quand Abraham a apporté son fils unique, Isaac, à la montagne de Morija. N'est-ce pas? Il apporte son fils unique. Il marche avec lui pendant 3 jours. Il arrive sur la montagne, il veut le tuer. Dieu lui dit, non, ne le touche pas. Prends ce bélier, sacrifie-le. Vous savez tous que dans notre société africaine, et je rends grâce à Dieu d'être africain, parce qu'on a vécu beaucoup de choses maléfiques ici, dans notre société. Ça nous permet de bien comprendre l'écriture aussi. Vous savez qu'on peut prendre un mouton en fin d'année, on l'attache quelque part à Boaké, on le zigouille, et puis tu es ici, tu es terminé. Tu sors de l'église comme ça, quelqu'un te pousse, paf, tu es mort. Ça veut dire que le mouton qu'on a tué, c'était vraiment toi qu'on tuait. Vous pensez que le diable a pris ça d'où? Le mouton, le bélier qui a été sacrifié sur la montagne, c'était vraiment Isaac qui mourait. Il dit, donne-le à la place de ton fils. Ça veut dire que c'était un sacrifice qui était fait pour Isaac. Et Dieu considère qu'Isaac était véritablement mort. Le sang qui est versé sur la montagne est le symbole d'un don que Isaac a fait à Dieu. Et Dieu devait rendre un fils qu'Abraham a fait à Dieu. Dieu devait rendre un fils à Abraham. Il fait venir son fils unique. Parce que Abraham a donné son fils unique. Dieu lui donne son fils unique à la personne de Jésus. Et maintenant, quand il lui donne son fils unique, il le fait mourir sur une montagne qui est appelée. Et il verse aussi son sang sur la montagne. Mais ce qui amène Jésus à la résurrection, c'est parce que Abraham qui a donné Isaac a vu Isaac vivre après l'avoir donné. Donc Dieu devait aussi voir Jésus vivre après l'avoir sacrifié. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Abraham a donné Isaac, mais il a continué de voir Isaac après. Pendant 3 jours, il savait qu'Isaac était mort. Le 4e jour, il dit, ok, je sais maintenant que Dieu me l'a redonné. Et Dieu aussi a vu son fils mourir. Et l'a retrouvé après 3 jours. À cause d'Abraham. Et maintenant, quand vous lisez bien l'histoire de Jésus, la Bible dit dans Matthieu 1, verset 1, Jésus, fils de David, fils d'Abraham. La Bible n'a pas dit Jésus, fils d'Adam. Mais fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi? Pourquoi le nom d'Adam n'est pas cité en ce moment précis? Et vous allez vous rendre compte que la Bible dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, et Judas et ses frères. Le nom d'Adam n'apparaît nulle part. En quelque sorte, la reconstruction de la race bénie a été faite par Abraham. Abraham est celui qui a reconstruit l'homme béni sur la terre. Parce qu'un seul j'ai appelé, et lui je l'ai multiplié. Donc Adam, Abraham a donné à Dieu la possibilité de reprendre ce qu'il a raté avec Adam. C'est pour ça que le nom d'Adam n'apparaît pas dans la généalogie. Et vous allez vous rendre compte que dans la lignée d'Abraham, dans cette lignée jusqu'à Jésus, on note bien que Jésus est le descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas, jusqu'à Joseph. On est d'accord? Donc, c'est pour ça que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc, le côté humain, il a eu d'Abraham. Et le côté divin, il a eu de Dieu. C'est pour ça qu'en mourant sur la croix, venu comme le don de Dieu, il a permis à plusieurs d'être réconciliés avec Dieu. Parce que le sacrifice d'Isaac sur la montagne, par son sang pollué par le péché, ne pouvait pas permettre aux autres d'avoir accès à une relation franche avec Dieu. Mais le don de Dieu, par Jésus, pouvait permettre à toute l'humanité d'être réconciliée avec le Seigneur. Et dans cette réconciliation, chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel est considérée au trône de Dieu comme un fils d'Abraham. Et maintenant, si je suis fils d'Abraham, ça veut dire que j'ai un testament qui existe pour moi. Abraham n'est plus vivant. On est d'accord? Abraham ne vit pas. Abraham est mort. Et ma Bible dit clairement que le testament, dans Hébreux, je crois, 9, versets 15 à 16, n'est-ce pas? Pour que le testament soit valable, il faut que la mort du testateur soit constatée. Si la mort du testateur est constatée, alors le testament est valable. Alors maintenant, si nous sommes descendants d'Abraham et qu'une promesse a été faite à Abraham et que Abraham n'est plus, à qui la promesse revient? À qui? Oh là là, à qui? N'oubliez pas que la Bible, Dieu a dit à Abraham, Éliézer de Damas qui est ton serviteur n'héritera pas. Donc, ce ne sont pas les serviteurs d'Abraham qui hérite la promesse, mais les fils d'Abraham, la descendance d'Abraham. Maintenant, quand nous sommes à l'église, est-ce que tu te considères comme un serviteur dans la maison de Dieu ou comme un fils de Dieu? Comme un fils ou comme un serviteur? Comme un fils ou comme un serviteur? N'oublie pas que Éliézer de Damas, qui est dans la maison d'Abraham, n'hérite pas avec les fils. L'héritage est au fils. Et quand un testament a été légué et que ton nom y est inscrit comme héritier légitime d'une promesse qui a été faite, je te pose la question. Est-ce que tu devras te débattre pour avoir ton héritage? S'il y a un problème, ça devient un problème juridique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons les notaires et nous avons les huissiers. Il y a un testataire qui a laissé un testament. Un testateur. S'il est mort, le testament devient valable. Parce qu'aussi longtemps qu'il vit, les propriétés sont encore à lui. Mais dès qu'il est mort, on partage le bien aux enfants. Et je vais plus loin. Selon certaines juridictions, vous allez vous rendre compte que quand le père est marié à la femme et qu'ils ont déjà un ou deux enfants, si le père décède, les biens ne reviennent pas à la femme. Ça paraît souvent choquant. Mais les biens reviennent aux enfants. La femme a une infime partie des biens. Elle peut être désignée usufruitière des biens jusqu'à la majorité des enfants. Donc, si elle est en train de gérer les biens, on dit que la gestion de l'héritage est encore sous tutelle marentale, en attendant que les enfants aient la maturité. Mais à la maturité, les enfants peuvent dire, ok, nous sommes matures maintenant, donne-nous nos biens et la maman n'a rien à voir. Et vous allez vous rendre compte, quand nos juridictions étaient encore bonnes, que l'enfant qui était acquis hors de la maison, loin de la femme légitime mariée au père, n'avait pas droit à l'héritage. Maintenant, comme ceux qui gouvernent ont tellement de maîtresses, comme ceux qui prennent les décisions à l'Assemblée nationale ont des amis qui étaient comme eux. C'est pour ça qu'il est temps que certains d'entre vous aillent à l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut ramener la Bible à l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces enfants de dehors, même le jour du deuil, quand ils arrivent et qu'ils voient les vrais enfants dans la maison, ils sont fils du père, mais ils ont vie. Ceux qui sont nés de la mère légitime. Ceux qui sont descendus de la maison familiale. Ceux-là sont regardés dans notre regard. C'est les vrais fils. Et ils ont parole. Alors que ceux qui sont nés au dehors n'ont pas la même parole. Et vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, suivez-moi bien maintenant, allez-y, comprenez-moi bien. Chaque fois que la mort du testateur est constatée, ça veut dire qu'il y a une mouvance et un transfert de richesses qui va à une autre dimension. Et dans la Bible, comme j'expliquais hier au pasteur, il y a un mystère que Dieu nous a montré. Le fils est toujours plus riche que le père. Alors, je vais plus loin. Est-ce que vous savez que Adam, sur la terre, était plus riche que Dieu? Sur la terre. Pourquoi? Parce que Adam était la seule personne sur la terre qui jouissait des biens terrestres. Et il est la seule personne sur la terre qui avait un corps. Dieu même n'avait pas de corps. Donc Dieu ne pouvait pas manger de mangue, ni sucer des oranges, bien qu'il les avait créées. La seule personne capable de les consommer était l'homme qui avait été créé par lui, qui était son fils. Maintenant, allons-y plus loin. Écoutez-moi bien, allons-y plus loin. Pour faire quelque chose sur la terre, Dieu avait besoin d'Adam. Et maintenant, vous vous rendez compte, quand Jésus est venu et qu'il est reparti, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms, afin qu'à la mention de son nom, Jésus est qui? Il est le Fils de Dieu. Mais maintenant, quand on chasse les démons, on ne dit pas au nom de Dieu, on dit au nom de Jésus. Il a eu un nom plus glorieux et plus puissant que tous les autres noms. Et quand il s'en va, il dit, celui qui croise en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce que lui-même, il a compris que chaque fois qu'on engendre des fils, les fils deviennent toujours plus puissants que le père. Et donc, si nous sommes descendants d'Abraham, et que Abraham a été béni, le minimum qu'on puisse être, c'est d'être au moins comme Abraham. Dieu l'a béni et Dieu l'a multiplié. Si on dit multiplier, il faut au moins que ce soit le même degré de rayonnement, de gloire. Mais le problème et la question que je pose, est-ce que tu crois que Dieu soit capable de faire avec toi ce qu'il a fait avec Abraham? C'est ça le vrai problème. Hier, j'ai reçu le coup de fil de ma petite sœur. Elle m'a appelé des États-Unis. Elle me dit, oh, il y a une crise grave ici. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, c'est fort, on a... J'ai fait des études de médecine. Je suis obligé maintenant d'avoir du travail dans des restaurants où je suis payé à 7 dollars à l'heure au lieu de 12. La crise frappe notre pays. Et donc je lui dis, j'ai appris aux informations que ça frappe votre pays. Mais n'oublie pas que tu appartiens à une famille qui ne subit aucune influence de la fluctuation monétaire terrestre. Est-ce que vous devez le dire aux gens autour de vous. Même si l'économie décroît, même si le pays s'enlisse et s'écroule, s'ébranle. Nous, la descendance d'Abraham, on a une promesse. Et à cause de cette promesse, Dieu est obligé d'être avec nous. Et si tu le crois, tu le verras. Alors pour blaguer, elle me dit, non, je t'appelle pas pour ça. J'appelle parce que je sais que tu es l'ami de George Bush. J'ai dit quoi? Elle me dit, ouais, mais c'est écrit sur Internet que tu es l'ami de George Bush. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, t'as pas lu? J'ai dit, non. Elle me dit, mais il faut lire, c'est écrit que tu es l'ami de George Bush. Vous vous rencontrez ensemble dans des sectes secrètes et vous faites des choses et tout pour gouverner ce monde. Et puis j'ai commencé à rire. Alors, quand elle a raccroché, j'ai tellement ri que j'ai dû garer ma voiture. Et j'ai continué de rire. Vous savez pourquoi je riais? Parce que je vais vous dire quelque chose. Certains d'entre vous, vos noms vont paraître dans les journaux sans que vous ne sachiez. Le problème, c'est que quand la grâce d'Abraham commence à te toucher, je dis bien la vérité, quand ça commence à te visiter, ça crée une intrigue qui est au-dessus de tout ce que l'entendement humain est capable d'imaginer. Et je vais dire une chose, frères et sœurs, il faut que tu saches que la situation dans laquelle tu as vécu jusqu'à aujourd'hui n'est pas tout ce que Dieu te réserve. À cause du fait que tu es descendant d'Abraham, tu dois croire à un meilleur devenir parce que Dieu est véritablement avec toi. Le problème est là, frères et sœurs. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons que Dieu soit capable de le faire? Chaque fois que Dieu était dans une mutation de période ou de saison prophétique, il a toujours organisé la transition, le transfert des richesses des mains des esclaves vers les mains des fils. Regardez bien. Quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, les esclaves, c'est-à-dire ceux qui étaient les enfants illégitimes, parce qu'en fait c'était eux les vrais esclaves qui détenaient le peuple de Dieu en captivité, les Égyptiens ont pris les richesses et ont donné aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quand Jacob devait sortir de chez Laban, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti avec des richesses. Quand Jésus est né, les mages sont venus avec des richesses pour l'adorer. La vraie question que je voudrais t'amener à poser, est-ce que Jésus a jeûné pour que les mages arrivent? Jésus ne savait même pas parler. Mais sa seule naissance a créé un mouvement de richesses sur la terre vers lui. Il n'a même pas eu une place à l'autel. Mais les mages, par l'étoile qui brillait, sont venus jusqu'à l'étable, lui apporter ce qui était à lui. Tu dois comprendre que cette affaire de richesse n'a rien à voir avec la publicité naturelle. Les affiches que tu colles au mur, tu racontes aux gens, je suis archibishop, je suis pape, je suis ci, ça n'a rien à voir. Laisse-moi te dire que si ton étoile n'a pas brillé, si les gens ne l'ont pas vue, tout ce que tu vas faire, tu vas te fatiguer pour rien. Laisse que Dieu fasse briller ton étoile. Si tu es vraiment né de Dieu, ton étoile brillera dans les cieux. Et les gens verront que tu as appelé à une grande destinée. Et vers toi, la grandeur de Dieu se manifestera. Ton étoile brillera. J'ai dit bien ton étoile brillera. J'ai dit ton étoile brillera. J'ai dit ton étoile brillera. Et je veux t'annoncer avec une ferme assurance que celui qui est né dans la maison, le fils légitime est celui qui hérite. Jamais l'esclave ne prendra ta richesse. Même si tu penses que les gens d'Orient ont tout le pétrole et tout l'or, je vais encore te dire qu'ils ne sont pas nés de Sarah. Ceux qui sont descendus de Sarah, la lignée d'Isaac, ceux qui viennent de lui, qui reconnaissent Jésus par Abraham. C'est pour ça que tous les autres prophètes, c'est vrai, ils sont peut-être des fils d'Abraham, mais ils ne sont pas des descendants de Sarah. C'est pour ça que tous, entre eux, à un moment précis, disent Jésus n'est pas le Messie. Celui qui ne l'a pas reconnu reconnaît simplement qu'il ne s'identifie pas à la descendance, la lignée d'Abraham qui mérite l'héritage. Alors, tout ce qu'il possède est illégitime. Dieu l'a réservé pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions servir aux intérêts de sa gloire. Si tu le crois, si tu crois que Dieu est avec toi, si tu crois effectivement que cette bénédiction annoncée à Abraham est pour toi, tiens-toi sur tes deux pieds, nous allons prier. Donc, quel que soit ce que nous avons, n'oublions jamais que tout ce que la terre possède n'est pas à nous, mais tout ce que la terre possède est à Dieu. Dieu fait de nous des intendants, des personnes à qui il confie les richesses qui lui appartiennent. Et s'il nous confie ces richesses, c'est uniquement pour que nous puissions servir à l'extension de sa gloire et de son royaume sur la terre. Et c'est pour ça que nous aurons tout ce que Dieu nous promet, pour que son royaume continue de grandir et de prévaloir sur cette terre. Tu vas répéter après moi la main droite levée vers le ciel. Éternel mon Créateur, je reconnais que Jésus, fils de David, fils d'Abraham, est mort à la croix pour moi et pour mes péchés. Je reconnais que Jésus-Christ, descendant d'Isaac, de Jacob, est mort à la croix pour moi. Son sang a été versé et par lui, par la foi, j'ai été réconcilié avec toi. Et dans le ciel et sur la terre, je suis reconnu par toi comme le fils légitime d'Abraham par la foi. À mon père Abraham, une promesse a été faite. Et tu lui as dit, je te bénirai. Et tu as béni Abraham et tu l'as multiplié. Je suis multiplié en Abraham au nom de Jésus. Je suis identique à Abraham, et la gloire que j'ai est semblable à celle qu'Abraham a eue une gloire sans pareil au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre extraordinaire. Je crois Seigneur que les esclaves n'héritent pas avec les serviteurs, fils, avec les fils. Je crois Seigneur que les serviteurs de la maison n'hériteront pas avec moi. Je crois que je suis le fils légitime et qu'un héritage m'a été donné. Le testateur a laissé écrit dans le testament des bénédictions qui me concernent. Et par la foi, comme mon père Abraham, je possède ce qui est à moi. Et je crois que la gloire de Dieu m'accompagne sur le chemin de ma destinée au nom de Jésus. J'annonce sur ma vie, j'annonce sur ma destinée que la grâce de Dieu est avec moi. Je verrai les promesses de l'Éternel, car Dieu m'aime et il fait de moi un intendant légitime pour sa gloire et son règne au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.